Alors, cominciamo. Alors, il y a quelque temps, excusez-moi, mais la voix va s'améliorer au fur et à mesure, je l'espère. Nous vous avons montré un DVD sur la Venise secrète. C'était, je pense, à la Befana, je crois. On y parlait d'une statue de Napoléon qui venait d'être rapatriée à Venise malgré l'hostilité des Vénitiens. Il se trouve qu'hier, il y avait une émission sur je ne sais quelle chaîne qui a évoqué le même sujet. Je me suis dit, ça y est, il me pique mon sujet. Enfin, c'était pas très long ce qu'ils ont fait. Cette statue, ben, la voici. Bon, on la voit là.
Oui.
Pas facile d'ailleurs à la trouver, cette statue, parce que j'ai dû. Ben, je l'ai piqué sur le. Justement, sur ce DVD. Merci.
Est-ce que ça éclaire l'écran?
Ah, ça éclaire là-dessus. Bon, là, c'est telle qu'elle est sortie de sa boîte, justement.
Alors, nous, on l'a un peu trop dans les yeux.
Voilà. Bon, ben, je rappelle quand même en deux mots qu'elle a été débarquée à la Piazzetta et on a dû lui faire traverser la place Saint-Marc de nuit et sous escorte, sous protection policière, parce qu'il y avait une telle hostilité qu'il fallait la protéger. Une opposition si tenace m'a conduit à étudier et à vous commenter l'œuvre de l'historien de Venise. Qui est Alvise Zorzi. Cette œuvre s'appelle Napoléone à Venezia. Elle n'a pas été traduite en français. Napoléon à Venise, bien sûr. Dans son livre, Zorzi décrit Venise avant Napoléon, les bouleversements que Napoléon a apportés, et puis il dresse le bilan des aspects positifs et négatifs de la présence fugace de Napoléon à Venise. Alvise Zorzi lui-même, ben le voilà, Alvise Zorzi, il n'est pas tout jeune, hein. Il est issu d'une ancienne. Oui, une ancienne. Oui, il y a eu des loges qui ont porté ce nom. Hein. Il est issu d'une ancienne famille noble de Venise. Il a fait carrière comme journaliste de presse et de télévision. Il est connu et apprécié pour ses livres très documentés sur l'histoire de sa ville. Avant d'aborder les rapports ambigus de Napoléon et de Venise, je vais évoquer brièvement l'histoire elle-même de cette période, ce que je ferai à partir d'un autre livre de Zorzi sur l'histoire de la République de Venise. Ça a été traduit par. C'était la République du Lion, je pense, en français. Quand, dans les salons de Venise, on commence à parler du général Bonaparte, la République, représentée par le Lion de Saint-Marc, était déjà très affaiblie. Elle avait dû abandonner aux Turcs beaucoup de ses colonies en mer Méditerranée, mais sur terre, elle possédait encore de vastes territoires. Là, vous avez donc tout le territoire dans cette couleur de la République de Venise, Venise étant là, bien sûr. On est encore surpris, à notre époque, de rencontrer partout, en Italie du Nord-Est, la statue du Lion de Saint-Marc. Que l'on visite le palais ducal, à Vérone, ou que l'on se promène Piazza dei Signori, à Padoue, on rencontre partout Venise et son Lion. Alors on va pousser plus loin vers l'est et on va entrer dans le château de Brescia. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le lion. Hein. On le voit. Hein. Le lion qui est. C'était d'habitude sur les portes. Brescia, oui, c'est pas très connu. Brescia, c'est une ville qui vaut vraiment la peine. Hein. Il y a en plus des antiquités romaines de toute beauté. Plus loin encore. On n'est plus qu'à 50 km de Milan. Il y a Milan qui est la grande rivale de Venise au temps de Napoléon. Et puis on arrive à la ville haute de Bergame. Voilà, il me faut ajuster un petit peu. Non, j'ai dû faire un peu trop là. La ville haute de Bergame. C'est le palazzo de la Ragione à Bergame. Ou bien, la ville haute, vous savez, Bergame est composée de deux villes, basse et haute, hein, mais la ville haute, elle est extraordinaire de Bergame. Peu visitée. Mais vous la voyez, quand vous passez sur l'autoroute, vous êtes déjà étonné de voir cette ville. Visitons le palazzo. Le palais de la raison, le palazzo de la Ragione. On a dit, ou le palais, ou la chapelle, la voici, hein, élevée en mémoire de Colleoni, le fameux condottiere de Venise. Hein. Alors, le fameux condottiere de Venise. J'ai oublié de vous dire, il y a deux lions aussi. Bon, les lions, ils sont. Ils en ont mis deux, là. Hein. Donc, Colleoni, le voici dans la chapelle qu'il a été élevé, où se trouve son tombeau. Colleoni, d'ailleurs, était né dans la. Pas loin de Bergame. Statue équestre en bois doré. Alors, pardon. Durant la première campagne d'Italie, Venise s'est déclarée. La première campagne de Bonaparte, bien entendu. Hein, Venise s'est déclarée neutre, ce qui n'empêcha pas de voir ses territoires servir de champ de bataille. Hein, donc, les Autrichiens et les Français s'en sont donnés à cœur joie sur les territoires, si l'on peut dire, de Venise. Arcole, sur l'Adige, était en Vénétie, par exemple. Voici le passage du pont d'Arcole de d'Horace Vernet. Hein, on va revenir sur le pont d'Arcole plus tard. Les villes vénitiennes doivent accueillir les armées d'occupation et payer la subsistance des armées. Hein. Les armées se payaient sur l'habitant, hein. Surtout l'armée de la Révolution, bien sûr. Ils n'avaient pas un sou. Venise elle-même est menacée. Comment va-t-elle réagir? Avant de répondre à cette question, ben, on va regarder, là j'ouvre une parenthèse assez longue peut-être, qui dirige alors Venise? Le pouvoir est exercé depuis 14 siècles, hein, c'est peut-être le plus long, la plus longue institution gouvernementale de l'Europe à l'époque, hein, est exercé depuis 14 siècles par plusieurs organes qui se complètent. Voici un organigramme qui les résume assez bien. Bon, alors, vous voyez, là on a. Ça, c'est le doge. Hein. Le doge, il a été élu à vie. Hein. Et puis, alors, tous les organes, il y a le Sénat, il y a le. Le Sénat, c'est ça. Il y a le Conseil restreint. Et trois inquisiteurs. Ça, c'est. Important. Le Conseil des Dix, et puis peut-être que vous ne voyez pas tout à fait les inscriptions. Hein, c'est... Le Conseil des 40. Alors, vous vous rendez compte tout ce qu'il y avait. Bon, à la base, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Grand Conseil des Patriciens. L'Assemblée des Patriciens. Cette Assemblée existait depuis un siècle, quand en 1297, on a décidé par la serrata, le verrouillage, de la limiter aux membres, à ceux de ses membres qui avaient siégé les 4 années précédentes et à leur descendance. C'est ainsi que fut créé le corps social des familles patriciennes. Ces familles se liaient entre elles par le mariage et leur union était inscrite dans le livre d'or. Le livre d'or. Comme les mariages, alors là c'est, je vous invite à me croire, c'est le mariage d'Adrienne Tiepolo, qui est une famille également de patriciennes, et de Jérôme Vallier, l'un et l'autre, issus de familles patriciennes. Il fallait être pour... les patriciens se mariaient avec les patriciens, hein, ça c'était clair. Les patriciens, voici le portrait majestueux du patricien Tiepolo, tiens. Non seulement ils énisaient les organes de décision que nous avons vu tout à l'heure, mais c'est parmi eux qu'on choisissait les hauts fonctionnaires, les officiers de l'armée, de la marine et aussi les doges. On choisissait aussi parmi eux les grands amiraux, bien sûr, qui firent la puissance de Venise. Ils provenaient tous du patricien, c'était évidemment, comme Giovanni Mocenigo, qui a été élu doge. Donc voici le portrait, portrait par Bellini, celui-là. Ou Andrea Gritti par le Titien. C'est assez sévère, hein, celui-là. Alors les patriciens, ils sont enrichis. Oui, ils sont enrichis, vous savez, ils avaient des flottes qui sillonnaient les mers. Et ils ont construit de magnifiques palais, que l'on connaît tous à Venise. Je vous donne des exemples. Hein. La Carizonico. En passant, je vous donne un petit détail sur chaque famille qui est citée. Les Rezzonico venaient du bord du lac de Côme. Et quand il y a eu, lors d'une période de vaches maigres, maigres pour la République, ils ont pu acheter leur titre de patricien pour 100 000 ducats. Oui, parce que ça se faisait aussi. Le palais Barbarigo. Alors, c'est une origine lointaine des Barbarigo, c'est presque à l'origine, au début de Venise. Ils viennent, eux, de la ville de Trieste. Le palais Giusti et la Cadoro. Qui a été construite pour la famille Contarini. Contarini, ils venaient d'Allemagne. Bon, et bien d'autres somptueux palais, la plupart longeant le Grand Canal. Plus tard, les patriciens investirent leur fortune dans les terres agricoles de la terre ferme. Les fresques de Tiepolo sont témoins de ce retour à la terre. Ça vous rappelle quelque chose, hein? L'une des villas palladiennes, c'est la villa Ainani. Alors les patriciens, ben ça on vous l'a déjà montré il n'y a pas si longtemps encore, ont construit là, sur ce qu'ils appelaient la terre ferme, hein, leur villa célèbre, hein, que vous connaissez bien. Bon, voici d'ailleurs un exemple avec la villa Emo. Bon, ça vous est connu. Ce qui est moins connu, c'est que le propriétaire, Angelo Emo, alors qui est, on peut deviner à ce tableau qu'il était intéressé à la marine. C'était en effet un grand amiral. Et il est auteur du dernier grand fait d'armes vénitien, au XVIIIe siècle. Le doge Paul Renier, le mit à la tête d'une escadre de 10 navires pour répliquer aux incursions barbaresques. Ils étaient un peu fatigués de voir les barbaresques de menacer toujours leur commerce. Et alors, Paul Reynier, Angelo Emo, il est allé bombarder les ports de... Il n'a pas fait le... Il s'y est attaqué à tous les ports successivement, Saxe, Tunis et Bizerte. Et il a moitié détruit Bizerte. Ça se passait en 1785, 10 ans seulement avant Bonaparte. Donc vous voyez que Venise avait encore une certaine capacité de nuisance. Malheureusement, Angelo Emo meurt en 1792. Et à cette époque, Venise n'est plus dirigée avec l'énergie du passé, il faut le dire. Venise n'avait jamais été occupée et elle a peur de l'occupation étrangère, évidemment. Les Français ont guillotiné leur roi, donc ils n'hésiteront devant rien. D'ailleurs, Bonaparte, qui achevait sa campagne, première campagne d'Italie, et qui stationnait à ce moment-là à Leoben en Carinthie, et qui traitait avec l'empereur autrichien directement, sans trop s'occuper du directoire. Bonaparte, à ce moment-là, est en correspondance avec Venise, et il tient l'État vénitien en piètre estime. Alors, dans ses lettres au directoire, il dit « Il n'y a pas de gouvernement plus traître et plus lâche que celui-là. » En plus, Bonaparte, il était très fort pour terrifier les représentants que la République lui envoie. Il se plaignait évidemment de méfaits qu'avaient commis des gens de Venise qui n'étaient pas toujours réels ou qui étaient exagérés. Giorgi risque une comparaison avec l'histoire récente, d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, Doge en fonction, à l'époque, c'est Ludovic Manin. Alors, Ludovic Manin, il n'était pas à la hauteur. Il est pusillanime, mais sans énergie. Alors, les patriciens, en même temps, dans la ville, ceux qui étaient dans la ville, parce que beaucoup n'étaient pas là, ils ne pensent qu'à préserver leur famille et leurs intérêts. D'ailleurs, il y a des bourgeois, en petit nombre, il y a des patriciens pauvres, qui, eux, accueillent assez favorablement les nouvelles idées. Ces bourgeois, les Vénitiens les appellent les Jacobins, donnez un nom qui englobe tout. Seul le petit peuple se révolte, comme à Vérone, lors de ce qu'on vous en a déjà parlé, ce qu'on a appelé les Pâques véronaises, durement réprimées par l'armée française. À Venise, lors de la réunion décisive du Grand Conseil des patriciens, la majorité requise était de 600 participants. Il n'y eut que 537 votants. Normalement, ça ne devait pas être valable. Mais on a dit que c'était des circonstances exceptionnelles. Et puis ils ont voté en majorité, mais en une énorme majorité, l'abdication du Doge et la dissolution du Grand Conseil. Donc ils votaient leur fin. La fin des institutions. Et c'est encore le peuple qui se révolte. Il saccage les maisons et les palais des Jacobins. Devant l'émeute qui menace, Bernardino Reynier, responsable de la sécurité, fait placer des canons sur le pont de Rialto qui suffisent à calmer la foule. Oui, l'image est un peu exagérée. Les canons ont tiré, mais en l'air, il n'y a pas eu de mort. Peut-être que quelqu'un s'est fait mal en courant. Mais ça suffit. À partir de ce temps, Venise n'est plus qu'une ville comme les autres. Et elle devient gérée par une municipalité provisoire. D'ailleurs, Bonaparte signe avec l'Autriche, en 1796, le traité de Campo Formio, que les Italiens appellent, je ne sais pourquoi, Campo Formido, mais enfin c'est le même, qui cède Venise et une partie de ses territoires à l'Autriche. Oui, d'ailleurs, il y avait un vaste échange. C'est que la France s'emparait de la Belgique et l'Autriche, qui ne demandait qu'à avoir de Venise, ses territoires, recevait ses territoires. On verra la carte après. Ça ne plaisait pas beaucoup aux Vénitiens d'être en plus monnaie d'échange comme ça. Hein. Humiliation. Du reste, on va le voir, tiens, on va voir la carte. Et vous voyez le territoire de Venise, comme il s'est réduit là. Alors on a créé la République Cisalpine avec une partie, cette partie-ci, le territoire de Venise. Et puis, l'Autriche s'était agrandie considérablement. Ironie de l'histoire. Voici le lieu où a été signé ce traité fatal. Une villa encore. C'est la villa du Dogemana, justement, à Passariano, près de Campoformio. En plus, ils ont utilisé sa villa pour signer ce traité honteux. Passons rapidement sur la courte période autrichienne, seulement marquée par le conclave. C'est un fait qui n'est pas très connu, qui a été tenu en 1800 au monastère de l'île de San Giorgio, au cours duquel fut élu le pape Pie VII. C'est peint par David, je pense. Et en 1806, Venise et ses territoires viennent à faire partie du royaume d'Italie, qui a Milan pour capitale. Alors c'est encore une nouvelle humiliation. Venise est la ville la plus peuplée, et c'est Milan qui est la capitale. Alors voici la nouvelle. La carte subit des modifications à l'époque, hein, ça va vite. Donc, incident technique, je pense. Il faut faire attention. Bon. D'accord. Vous voyez, ça, c'est devenu le royaume, le Regno d'Italia. Hein. Donc, qui incorpore Venise et Milan. Milan étant la capitale, et qui comporte également Bologne. Bon, ça, regardez-le bien, parce que ça va nous... ça va former une entité qui va durer, quand même, hein, ça. Et pourtant, Venise, à l'arrivée des Français, avait encore de beaux restes. On a toujours dit que Venise était... ne comptait plus pour rien. C'est pas tout à fait vrai. C'est ce que signale Giorgi. Bon, ces restes, évidemment, c'était surtout sur la terre ferme, mais quand même. Dans le textile, les trois usines Linuccio de Tremolio, Tremolio c'est dans le Frioul d'ailleurs, créées par Jacques Linuccio, avaient été les premières à travailler la laine et le lin de la fibre, en cycle complet, hein, de la fibre en tissu, et employer des travailleurs à domicile. En fait, des travailleurs, c'était des travailleuses, surtout. Jusqu'à 30 000, c'était énorme. Hein. Alors, c'est, évidemment, à cette époque, Linuccio était en déclin, mais ce qui accélérait encore le déclin, c'était la cession à l'Autriche. Dans le secteur du papier, ça c'est pour vous donner une idée du papier, on produisait des rames de papier, à Venise, enfin dans le territoire vénitien, dans les papeteries de la vallée du papier, près de Maderno sur le lac de Garde, actuellement province de Brescia. Ces papeteries dominent en Europe et fournissent aussi le papier à tout l'Empire ottoman. Elles le fournissent bien sûr aussi aux imprimeurs et aux relieurs vénitiens, qui depuis le temps de Manuzio, Manuzio. Il a, c'est le grand imprimeur vénitien qui est arrivé juste après Gutenberg. Alors ces libraires et imprimeurs jouent dans ce métier un rôle capital en Europe. Et parmi eux, un autre capitaine d'industrie, c'est Raymond Dini, un imprimeur de Bassano. Et ça, cet exemplaire, c'est de la tête de la Carta di Parma, c'est pour mettre sur les murs. C'est pas vraiment du tissu d'enveloppement, c'est de la carte imprimée, du papier imprimé, de très précieux. Et là, c'est un, évidemment, ce sont des échantillons qu'ils ont présentés. Il y avait toute une collection. Il avait d'ailleurs son siège à Venise, hein, son usine à Bassano, son siège à Venise. Dans la ville même, la ville est peuplée d'artisans. Ils produisent des tissus de luxe, en soie, toujours. Des damas, des brocarts. Il y a partout de petits imprimeurs. Venise édite d'ailleurs 3 journaux à l'époque. Pour une petite ville, hein, 3 journaux. Il y a les ébénistes en bois doré, les dentelles de Burano sont demandés partout, comme le verre de Murano. Il y avait quand même de beaux restes. Hein. En commerce, bien qu'affaibli, le port de Venise est encore un lieu d'échange important, fréquenté par les bateaux de toutes les nationalités. Ça, c'est du Canaletto, la pointe Punta della Dogana. Et surtout, par Van Vitel, cette image donne l'idée de l'activité de Venise, parce que vous voyez tous les grands bateaux qui sont abordés par des barques qui viennent de partout. Enfin, Venise, par ses fêtes et son carnaval, par ses œuvres d'art, est un centre touristique de première importance. On y compte 6 théâtres. Et c'est la fête presque toute l'année. Pensez qu'on a reculé d'annoncer pour le carnaval, on a reculé l'annonce de la mort du doge pour ne pas ruiner l'effet du carnaval. On a reculé de 2 semaines. C'est la douceur de vivre, comme disait. C'est la fête presque toute l'année. Les gondoliers, y compris les gondoliers di gondolieri di casa, parce que les grands patriciens avaient naturellement toute leur escadre de gondoliers, qui étaient rémunérés comme des domestiques. Les gondoliers, y compris les gondoliers de maison, sont encore en grand nombre, comme on peut le voir lors des régates. Je ne sais pas si on voit très bien. Je sais que je peux faire voyager un peu là. Par tradition, mais aussi par orgueil, Venise égale, étale toute sa puissance, toute la puissance de son passé, lors du banquet des ambassadeurs. ça c'est mon truc qui quitte là. La tête ça. Bon. On va repartir. J'y suis, hein, ne vous inquiétez pas. 9. Nous sommes au banquet des hommes.
Oui.
Les ambassadeurs. Ou bien la régate qui a marqué la réception de Frédéric Auguste de Saxe. Lors de cette régate, Pisani s'est pratiquement ruiné. Parce que les patriciens, ils y allaient de leur bourse hein, pour recevoir des étrangers, des souverains étrangers ou des hôtes de marque. Et donc, il fallait faire bella figura. Et c'est là que Pisani s'est ruiné. Et plus tard, Napoléon a racheté. Enfin, il a fait racheter parce qu'il n'avait pas payé de ses propres deniers, la villa Pisani à Bra. Donc nous en sommes à la réception de Frédéric de Bas, ou bien alors une autre preuve de. Non, ça c'est. La réunion du Grand Conseil. Impressionnant, hein? Vous voyez bien? Ça va?
Oui, oui, oui.
Enfin, le magnifique Bucentaure. Peint par Guardi. Des cérémonies de mariage avec la mère est un symbole de puissance et d'excellence. Alors, une autre vue du Bucentaure. Avec une scène de la vie courante. Par Bassano, celle-là. Ce même Bucentaure allait connaître un bien triste sort avec les occupants français quand ils durent laisser la ville aux Autrichiens en vertu des accords de Porto, de Campoforgue. Oui, ça y est, il n'était pas question de laisser aux Autrichiens des choses précieuses. Et on a dépouillé le Bucentaure de ses ornements, de son or, et on y a mis le feu. De plus, dans l'arsenal, on a détruit toutes les installations d'arsenal, y compris les miniatures modèles qui servaient à la construction des navires. Où il n'y avait pas de plan, mais on servait de miniatures. L'arsenal était une véritable forteresse dans la ville. Je vais vous parler un peu de l'arsenal là maintenant. Avec deux portes seulement dans cette forteresse. Voici une gravure d'époque avec la porte de terre. Le lion, on le voit mal là. Enfin, il y a. qu'on ne voit pas, c'est qu'il a une tête rapportée.
Il y a des ailes et l'autre il a la main. C'est ça, non ?
Une tête de chien, je crois. Bon, ça, c'est une photo moderne, bien entendu. L'arsenal était la base de la construction navale vénitienne et procurait du travail à une grande partie de la population. Celle-ci avait dû s'adapter à l'évolution navale au cours des temps. Des galères ou frégates. Les frégates, lors de la frégate à voile. Hein. Bon, ça c'est la. La frégate Grossa Venezia, la Fama. Retenez bien ce nom, parce que la Fama, ça va nous servir plus tard.
La renommée.
La renommée, oui, bien sûr. De nos jours, on visite rarement l'arsenal. Je sais pas si. Est-ce que certains d'entre vous ont visité l'arsenal ? C'est pas très nombreux. Hein. C'est assez loin. Hein. Alors on n'y va pas souvent parce qu'on pense qu'il n'y a rien à voir. Et pourtant il en vaut la peine. Voici l'entrée du vieux bassin. Ou les chantiers navals qu'on appelle les gardiandres. Dans le musée, on voit bien sûr des canaux, mais aussi des fers de gondole. On voit des décorations de gondoles aussi. De gondoles, de galères par contre. De galères. On y voit des modèles. Les tableaux sont l'image de l'activité qui régnait alors autour de l'arsenal. On va voir la porte de mer par Canaletto. Là, je vais vous. Bon. Ce que je voudrais, c'est éliminer. Bon, enfin. Par Canaletto, d'accord. Les ouvriers de l'arsenal avaient l'orgueil de leur corporation. Et une de leurs traditions, c'était l'exécution de la pyramide humaine qu'ils présentèrent plus tard à Napoléon lors de sa visite. Pyramide appelée les forces d'Hercule. D'ailleurs, lors de la présentation à Napoléon, c'était de mauvais augure parce que la pyramide a raté. En s'emparant de l'arsenal de Venise, les Français y trouvèrent en partie la flotte, enfin, il y avait des bâtiments qui étaient en construction, d'autres qui étaient hors circuit. Ils ont détruit la flotte, mais ils ont conservé des frégates capables de naviguer. C'est ainsi que la Fama, que vous avez vu tout à l'heure, a été rebaptisée Muiron, du nom d'un compagnon de Bonaparte tué à Arcole. Et c'est justement cette frégate qui, lors. Voici la frégate en Autriche, en Égypte, pardon. Et c'est cette frégate qui, lors de son retour d'Égypte, Napoléon, lui a permis d'échapper à la vigilance de la marine anglaise. Comme le dit cette inscription du musée de la marine, je ne sais pas si vous pouvez lire. le Miron, frégate construite à Venise, ramena Bonaparte d'Égypte en 1799. Ouais, ben voilà, encore un témoignage de la capacité de Venise. À cette époque, Bonaparte est l'idole des intellectuels italiens, tel Foscolo, qu'on va vous montrer sur le fond du tableau d'Arcole, en vous lisant un extrait de sa poésie intitulée « À Bonaparte, libérateur ». Je cède la parole. Alors.
E l'altra, la tricolorata alta bandiera, in mano del duce che inferà il conflitto, rompogna, incalza, inventa e in mille modi passa e vola quel dio di schiera in schiera, per dubbio e marete e dove più di cavalli lumina nel sangue pesta e sangue schizza e piove e regna il morto e poi ostinata pugna con suoi si scaglia e la fortuna sfida guerriero invitto e tra le fiamme pugna e vince e l'Italia grida libertà. Adesso la
versione
francese. Et la haute bannière tricolore que dans un mortel tumulte empoigne le chef qui exhorte, presse, invite et de mille façons passe et vole tel un dieu d'une cohorte à l'autre, mais le combat reste pourtant douteux. Et lui, là où les sabots des chevaux foulent le plus de sang, faisant le sang jaillir et pleuvoir dans la mêlée acharnée, d'où la mort ne s'éloigne jamais, il s'élance avec les siens, défiant le sort, invincible guerrier, et au milieu des flammes empoigne et triomphe. Et l'Italie crie « Liberté ».
Oui, cet extrait de poème rappelle que c'est à Napoléon, à Bonaparte, libérateur, écrit par Foscolo. Foscolo, au cours de cette période, hein, la période napoléonienne, il a traversé plusieurs états d'âme. Il était d'abord, comme on le voit là, très favorable à Bonaparte. Et puis, peu à peu, son enthousiasme s'est dilué, en particulier avec le traité de Campo Formio, là, ça l'a mis par terre. Et il a quand même fait partie de l'armée française. Mais quant à ses poèmes, il a revu ce poème, il en a écrit encore deux ou trois versions qui étaient chaque fois plus édulcorées. Et heureusement que ça s'est arrêté, sinon Bonaparte serait devenu un vrai tyran à ses yeux. Que devient l'Italie du Nord à laquelle se trouve rattachée Venise? Si le pouvoir ne change pas, le nom est plusieurs fois modifié, avec chaque fois un changement de drapeau. On va le voir. Comme ceci. Alors là, en fait, c'était la République Cisalpine, puis c'était la République d'Italie, puis le Royaume d'Italie. Les sujets ont été donc des républicains des six alpins, puis des Italiens, puis des citoyens fidèles du roi. Enfin, on va voir qui est le roi. On va d'abord voir quel est le territoire. Donc là, je pense qu'on voit clairement quel était le royaume d'Italie. Le reste étant l'Empire français, hein, tout ce qui est vert. Bon, on va revenir sur l'Empire français. Le pouvoir en place, en théorie, c'est le beau-fils de Napoléon, qui est, vous savez, c'est le fils de Joséphine Eugène, Eugène de Beauharnais. Qui est en titre vice-roi d'Italie. Mais le pouvoir, en réalité, c'est Napoléon, qui inonde Eugène de lettres, de conseils, parfois révélatrices. On a toute la correspondance de Napoléon, et donc on peut s'apercevoir que, on peut s'imaginer que Eugène ne savait plus où donner de la tête, tellement il recevait des lettres, et des conseils, et des... qui étaient quelquefois plus des ordres que des conseils. Je lis un passage de lettre qui est quand même assez révélateur. Il dit à Eugène, « Vous avez tort de penser que les Italiens sont comme des enfants. » On peut imaginer que c'est ce que Eugène a dû lui écrire en faveur de ses sujets. « Sont comme des enfants. Ils vous estimeront dans la mesure où ils vous craindront. » Et ils vous craindront encore plus quand ils se rendront compte combien vous connaissez leur caractère hypocrite et faux. Il ne fallait pas que ça tombe dans toutes les mains, hein, à ce moment-là, ce courrier. Nonobstant cette opinion, Napoléon se fit couronner roi d'Italie en 1805 au cours d'une imposante cérémonie se déroulant au Dôme de Milan. Napoléon, qui, suivant une habitude qu'on lui connaît bien, s'est couronné, s'est mis la couronne lui-même sur la tête. Le pape n'était pas là, mais bon. Il y avait un archevêque, mais l'archevêque était spectateur. Napoléon se posa lui-même la couronne sur la tête en disant Dio me la diede, guai a chi la tocca. Dieu me l'a donné, malheur à qui la touche. Alors la couronne, c'était pas n'importe quelle couronne, hein. C'était la couronne de fer de Charlemagne, qui servait à couronner les empereurs du Saint-Empire romain germanique. Elle était à la basilique de Monza, qui est tout près de Milan, hein. Et puis elle a été apportée en cortège, hein. On avait beaucoup l'habitude des cortèges à ce moment-là, je reviendrai là-dessus. Plus tard, Napoléon créa l'ordre de la couronne de fer, dont la médaille portait la phrase que j'ai citée, Dio me la diede, guai a chi la tocca. Voici un tableau qui représente Napoléon, roi d'Italie, avec la médaille de l'ordre de chevalier de la couronne de fer. Il ressemble à Eugène, hein. C'est le même peintre, je crois. On retrouve Napoléon empereur et roi d'Italie sur les pièces pour, ça n'a pas grande valeur, hein, les pièces de 5 lire. Mais peut-être qu'à l'époque, En même temps, l'administration tend à se franciser. Comme le démontre cet acte de naissance, de qui ? Alors, je ne sais pas, vous ne pouvez peut-être pas dire. C'est un Joseph. C'est Giuseppe et Giuseppe Verdi. Et tout est écrit en français. Hein. Alors, à ce moment-là, il y a la création des départements qui concernent tout l'Empire. Alors, on va voir. Les départements. Alors, bon. Et à l'époque, on a déjà absorbé le Piémont, sauf la Sardaigne. Le roi du Piémont avait conservé la Sardaigne, il passe sur cette carte, et puis le Latium. Les autres États étaient satellites, hein, évidemment, on en reparlera d'ailleurs. Eh bien, les Italiens du royaume d'Italie, qui pensaient échapper au département, mais pas du tout. Eux aussi, on leur a fait des départements. Et sans doute, comme les petits Français, ça leur a permis d'apprendre le nom des rivières, que sinon, on ne saurait pas, je crois, quelquefois. Alors, vous avez le Tarou, le Rhénou. Pas le Rhin, hein, le Rhénou de là, le Serio, etc. L'Adige, évidemment. La Brenta, qui avait été un département. Enfin, Brenta, qui était là, bien sûr. Le Serio, qui était là. Voilà, par tous les départements. Alors, des royaumes sont distribués à la famille Bonaparte, hein, c'est bien connu. Et les duchés par dizaines aux maréchaux de l'Empire. Zorzi en fait une liste presque d'une demi-page. Mais enfin, je vous cite pour mémoire que Caulaincourt est nommé duc de Vicence, Duroc, duc du Frioul, Mortier, duc de Trévise, toutes les villes ont servi. Hein. La presse anglaise on fait des caricatures. Là, en fait, il est en train de faire du pain de gingembre. Il fait de la pâte et puis on crée des images au nom de Napoléon, bien sûr, qui fait des petites statuettes en pain au nom des rois, hein, ou des maréchaux d'Empire. Et puis il les met dans le four. Et alors, bon, je ne sais pas si c'est une allusion, mais il y a beaucoup de déchets, une sorte cassée. C'est d'humour britannique, hein, dans les circonstances. Mais ça marchait.
Et qui est-ce qui fait la pâte derrière?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. On pourrait. Non.
Oui, c'est les Ottomans.
Il est marqué Joseph. Ah non, c'est pas Joseph, je lis mal. Je lis mal. On peut revoir cette image. Hein. Parenthèse, c'est une image qui vient de. Vous savez qu'il y a une exposition en ce moment aux Invalides sur l'Europe et Napoléon. Et là, je me suis procuré le catalogue, et ça vient de ce catalogue, et il paraît qu'elle est très intéressante, cette exposition. Comme les Français, les Italiens se voient imposer le code Napoléon. Le rat de pas Napoléon, n'importe quel Napoléon, Napoléon le Grand. Mais là, on a l'extrême bonté, il fallait qu'ils comprennent sans doute, hein, de leur faire un code en italien. Codice di Napoleone il Grande. Hein. Et c'est bien le codice pour le Regno d'Italia. Une réforme qui apporte rapidement ses effets à Venise, mais sur les impôts, c'est celle du cadastre. Et voici le nouveau cadastre de San Zaccaria à Venise. En fait, une grande partie de la ville a été cadastrée comme ça. Il y avait déjà un cadastre avant, hein, les Vénitiens n'étaient pas en retard. Mais on l'a refait aux normes napoléoniennes et d'empire. Et puis peut-être que ça permettait, sûrement, de donner une plus de sûreté aux impôts qu'on voulait verser. Quoi. C'était... D'ailleurs, contrairement au département et à l'usage du français, ces deux dernières réformes, le code Napoléon et le cadastre, étaient appelés à durer. Hein. Il y a eu d'autres décisions de Napoléon qui devaient concerner la ville elle-même. Et on va voir comment. En fait, Napoléon n'est venu qu'une fois à Venise, fin novembre 1807. Il est venu 5 jours. Les Vénitiens, bien que durement éprouvés économiquement, lui firent une réception à la Vénitienne de l'époque, pleine de fastes et de cérémonies. Et les expatriciens étaient plus, y avaient contribué largement de leur bourse. Arrivés à Fusina, au début de la lagune, à l'extrémité du canal de Bra, le cortège impérial formait une longueur, en fait, le cortège ensemble, dans l'ensemble formait un cortège nautique de 32 embarcations. Certaines avaient été construites spécialement. Suivant le grand canal, il passait sous les arcs de triomphe, élevés spécialement de 30 mètres, les arcs de triomphe, et accostés à la Piazzetta. Napoléon a pu voir ainsi tous les palais défiler sous ses yeux. Des expatriciens. Tout Venise était là pour le voir. Le peuple attendait tout de lui. On le prenait pour un demi-dieu. C'était presque une adoration. Hein. Les poètes lui dressaient des louanges inouïes. Un journal l'appelait Delizia dei cuori, délice des cœurs. Les artistes lui rendaient les plus grands honneurs. Ici, ça doit être Venise qui couronne l'empereur. L'empereur est roi. Les programmes chargés prévoyaient de nombreuses réceptions. Un bal à la Fenice. Ça paraît tout petit la Fenice, mais on reviendra là-dessus. Un bal où on a exécuté aussi à la Fenice une cantate, spécialement créée pour l'occasion. C'était une Giudizio di Giove, le jugement de Jupiter, cantate, pour l'arrivée le plus. Imposante. On ne voit pas. Oui, on peut. Ah, on ne voit pas, je ne l'ai pas mis. Ah, voilà. giudizio di Giove. Eh? Napoléon il Grande, ça, ça manque pas. Empereur de, impérateur et empereur de France et roi d'Italie. Ils l'ont mis seulement de France, là. Hein? Non, non, des Français. Des Français. On fit des régates, il y avait quand même des régates grandioses, et on présenta des illuminations nocturnes de la place Saint-Marc. Mais Napoléon, le général, avait d'autres objectifs encore aussi de visite et d'inspection. Des Muratsi de Malamocco qu'il faisait renforcer. Les Muratsi, c'était donc les digues. Hein. Il les faisait Venise devait être défendue par la mer et inviter et éviter l'incursion des Anglais. Il a fait renforcer l'arsenal, évidemment. Il avait fait remettre à l'arsenal des navires en chantier. Il a fait renforcer aussi les îles de la lagune. Il a fait fortifier les îles. Enfin, vous voyez, c'était aussi un but militaire. C'était peut-être un point faible qu'il voulait éviter. Enfin, il signe décret sur décret pour alléger la crise économique régnant à Venise et dans le but de transformer la ville. C'est ce qu'on va voir, la transformation de la ville. La première disposition concernait les tombes, la première dont je vais parler, hein, mais c'était une disposition qui était assez simple, puisque d'abord les Vénitiens étaient enterrés dans les églises ou dans les cimetières paroissiaux, qui étaient forcément trop petits, et puis alors il y avait l'élite Saint-Cloud, du temps du directoire d'ailleurs, qui avait établi que les cimetières seraient situés hors des murs de la cité, et donc ça s'appliquait à toutes les villes de l'Empire. Et pour Venise, on choisit les îles Saint-Michel et Saint-Christophe de la Paix, Saint-Christophe de la Paix, qui étaient toutes proches de Venise, que l'on a réunies, enfin c'est une vue de ces avant. On les a réunies, hein. ces deux îles sont en immédiate proximité. Donc voici San Michele actuellement. Il y avait là d'ailleurs un monastère hein, qui a été détruit et puis on a conservé l'église. L'église San Michele. Alors je vais vous montrer maintenant un plan de Venise en 1800, avant des changements d'urbanisme sous Napoléon. Donc vous reconnaissez assez bien Venise, et regardez surtout cette partie-là, tout est bâti, hein. tout est construit. Bon, c'est là, cette partie sud-est, hein, qui a été concernée par ces changements. C'était qu'une petite partie, mais c'était le début d'un projet de Napoléon qui était destiné à apporter à Venise des parcs et de l'espace. Il avait des idées, dit-on, hein, très arrêtées sur les villes. Et puis Venise, ça ne correspondait pas du tout à son idéal, ça s'y prêtait mal. Alors voilà ce qui est devenu cette partie-là. On voit qu'il y a en effet beaucoup de verre. Il y a aussi une rue, une grande rue là, toute droite, qui correspondait à l'idéal de l'empereur. C'était, d'ailleurs on l'a baptisé à l'époque, Via Eugenia, en l'honneur d'Eugène de Beauharnais, Et maintenant, c'est Via Garibaldi. C'est l'une des deux vies de Venise, hein, y en a pas, sinon c'est des cas. Et... Alors, voici une vue actuelle du début de la Via Garibaldi. Et voici l'autre bout, celui du canal Sainte-Anne, c'est vu par l'autre côté. Et comme vous voyez, c'est une rue avec des commerces, avec y a un marché tous les jours. C'est très fréquenté par les Vénitiens de souche, hein, les vrais Vénitiens de la ville. D'ailleurs, je vais vous montrer la même rue. Lors d'un repas de gala de 500 couverts. Et devinez pourquoi la... Ben, pour une régate, bien sûr. Les régates... qui se faisait, je ne sais plus quel est le nom là, qui oppose les grands. Il y avait un bateau vénitien d'ailleurs, enfin il y avait un bateau italien. On dégageait en même temps des quartiers entiers pour faire place à ce qui allait devenir les jardins publics de Venise. On n'a pas une idée parfaite des jardins publics parce qu'on y a bâti de plus les pavillons de la Biennale. Et voici d'ailleurs le pavillon de France. Pour faire place à tout ça, il a fallu démolir de nombreux édifices. Et Giorgi déplore la destruction de plusieurs églises, la dispersion des œuvres d'art qu'elle contenait. C'est le cas de San Domenico, église du XIIIe siècle. Bon, ben, vous voyez l'église au milieu de ce petit plan. C'est une image un peu particulière. Elle est extraite d'un plan très célèbre, un plan très minutieux qui a été fait au XVe siècle. Alors, par Jacopo de Barbari, ce plan qui mesure 2 mètres sur 3 se trouve au musée Correr. Si vous êtes intéressé par ce plan, je pourrais vous donner la référence sur Internet. Il est fabuleux ce plan. Alors, on a détruit l'église et le couvent des Capucines, on a détruit San Nicolo de Castello. Avec son église du 15e, son séminaire ducal, l'hôpital des marins, et surtout San Antonio Abate. Nous revoici avec le même type de dessin. Alors là, c'est l'extrémité de la presqu'île. Hein. Bon, évidemment, vous voyez bien hein, l'église au milieu de tout ça. Cette San Antonio Abate, elle datait du 13e, elle. Et d'ailleurs, Carpaccio on y a fait un tableau, ça c'est l'intérieur de San Antonio Abate. Ben, il n'y en a plus, hein, l'église a été éliminée. Il y a une église y restée, c'est, je la cite, parce qu'elle est quand même pas mal, mais on n'y va pas non plus beaucoup, celle-là elle est trop loin, la grande église San Pietro di Castello. On n'y a pas touché. Elle était d'ailleurs à l'époque le siège patriarcal. Et c'est sous Napoléon que cette prérogative, elle a dû le céder à Saint-Marc. Ça ne s'est pas arrêté là. Un autre quartier de Venise devait connaître les démolitions napoléoniennes, c'est celui de la place Saint-Marc elle-même, avec l'église San Gimignani. Alors, vous voyez dans le fond, l'église San Gimignani. Hein. Et tout ça, on va le revoir, c'est le musée Correa maintenant. En effet, le royaume avait besoin, à Venise, sinon d'un palais. Le royaume était, le siège était à Milan, mais à Venise, on venait. Joseph est venu plusieurs fois à Venise. Alors, il fallait un palais, mais au moins un siège dans la cité des Doges. Et puis il fallait une salle des bals. Parce que chaque fois que le roi venait, ou l'empereur, il y avait un bal. Il fallait une grande salle de bal, et ben, on l'a fait là, aux dépens de l'église. C'est ce qu'on a appelé l'ala napoléonica, l'aile napoléonienne, qui est devenue, évidemment, comme vous le savez tous, le musée Correa. En même temps, on démolissait plusieurs autres choses qu'il y avait par là, le magasin de froment. Et on a quand même fait place à un petit jardin, le petit jardin royal San Marco. Il n'est pas très grand, mais enfin, il borde le Grand Canal. Sur la culture également, le poids de Napoléon devait se faire sentir. Déjà, dans tout l'Empire, on réduisait le nombre de théâtres. J'ai lu, enfin c'est Zorzi qui le dit, que la raison c'est que ça pouvait donner lieu à des critiques, les théâtres c'était un lieu d'insurrection éventuelle. En tout cas, on a réduit le nombre de théâtres partout. Et alors, il y avait 6 théâtres vénitiens, comme je le disais tout à l'heure, il y avait 3 théâtres qui ont dû disparaître. Enfin, on a conservé 3 quand même. Parmi ces théâtres, on a, par exemple, pour vous donner une idée, le théâtre San Benedetto. Alors voici les gens qui se pressent pour rentrer dans le théâtre San Benedetto. Ils venaient à pied ou en taxi-gondole. Est-ce que j'en suis, le théâtre San Benedetto. C'est un, comme tous les théâtres vénitiens, il est modeste à l'extérieur. Hein, c'est, bon. Mais l'intérieur est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Le voici lors d'une fête. En 1792. C'est la même chose pour le théâtre La Fenice. Vous voyez l'importance de La Fenice. Alors, La Fenice fut jouée en 1810, la première d'un opéra bouffe, appelée La Cambiale di Matrimonio, qui est une œuvre encore représentée de nos jours. Et vous allez sans doute vous souvenir, puisqu'il y a une conférence de la Dante qui a fait allusion, cette œuvre est d'un compositeur qui allait devenir célèbre, Rossini. Voici Rossini jeune. Quand même, les œuvres de début de Rossini ont été exécutées quand Venise était sous l'occupation française. En 1813, on y jouera de Rossini Il signor Boschino, Tancrède, Sigismond. En passant pour les théâtres et pour rappeler combien Venise était pauvre, on était devenu pauvre. Hein. On prélevait sur les entrées une taxe spéciale pour les pauvres appelée tasse pauvrerie. Les cercles de culture maintenant, à Venise, ils étaient plutôt favorables à l'influence française. Un cercle, il y en avait plusieurs, mais il y en a un qui domine, c'est celui d'Isabella Teotocchi Albrizzi, dont voici le portrait peint par Madame Vigée Lebrun. Oui, elle est pas mal, hein. Giorgi, il s'est arrêté là-dessus. Isabella fut l'amante du jeune Ugo Foscolo, dont on a lu une poésie tout à l'heure. Sans être, elle ne bougeait pas de Venise, hein. De Vivant Denon. Vivant Denon, il s'était exilé à Venise au début de la Révolution. Et puis, il a connu ainsi de près Madame Isabella Teotocchi Albrizzi. On viendra sur Vivant Denon, il a joué un rôle plus tard encore. Alors, le poète, Zorzi ne se prononce pas, le poète Vincenzo Monti était l'un de ses admirateurs, dit-il. On ne sait pas. Elle avait d'énormes qualités intellectuelles, cette Isabella. Hein. Elle a écrit un traité sur les sculptures de Canova. Canova était natif de Vénétie, d'ailleurs. Et Canova l'a récompensé en lui faisant cadeau d'une très belle sculpture, la tête d'Hélène. Canova était lui aussi un artiste inspiré par Napoléon, comme on le verra plus tard. Donc les Français étaient amis de la culture, et ils l'ont aussi montré d'une autre manière. Car dès le début, à l'instigation du directoire, il faut le dire, ce fut le prélèvement des œuvres d'art. Vivant de nom, il y est pour beaucoup, hein, qui furent expédiées en France. Parmi elles, on sait bien, il y a les noces de Cana de Véronèse, qui sont encore au musée du Louvre. Mais ce qui frappait le plus les Vénitiens, c'était les quatre chevaux de bronze de la place Saint-Marc. C'est en 1798 qu'eut lieu l'enlèvement des chevaux. Alors, vous voyez les chevaux, là. Bon, vous voyez qu'on descend les chevaux. Là, je ne sais pas si c'est bien visible qu'on descend les chevaux, les charges, là. Et puis on les envoie en France. Hein, ce n'était pas une promenade. Hein. Ils sont allés en bateau par voie de mer jusqu'à Arles, puis par par canal et rivière, le Rhône, jusqu'à Paris. Ça a demandé plusieurs mois, hein, évidemment. Et c'est arrivé un peu tard pour la fête, d'ailleurs. Mais quand même, on a reculé la fête, je crois. Car une fois arrivé, les œuvres d'art faisaient l'objet d'une exposition. Non, je passe à un passage qui est important. Je reviens sur les chevaux. Arrivés à Paris, les chevaux formèrent la pièce maîtresse d'un grand cortège qui les présenta solennellement aux Parisiens. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est le programme du cortège, l'ordonnance du cortège. Alors vous ne pourrez peut-être pas tout lire, mais je vais essayer de le lire pour vous, parce que ça... Bon, les professeurs des écoles centrales, c'est qu'une partie, c'est la page 6 et 7, hein. Centrales suivront le buste du poète, alors je ne sais pas de quel poète il s'agit. Ceux de leurs élèves qui se sont distingués dans leurs études marcheront des deux côtés des chars de cette division. Et ainsi de suite. Hein. Bon, la troisième division, c'était les Beaux-Arts. les arts cherchent la terre où croissent les lauriers, disait M. Lavallée. Il y avait un chœur composé de jeunes artistes. Ah, c'est parti, là? Ah bon. Ça s'appelle ça. Il faut me le dire, hein, parce que... Bon, ben, on va repartir. C'est bizarre. Je crois que ça se détache, c'est pas assez bien fixé. Là. C'était... Bon. Alors, non, mais ce qui vaut, si on peut nous en dehors quand même, c'est que là, les chevaux se figuraient dans le monument de la, les monuments de la sculpture antique. Sur les deux premiers chars seront les quatre chevaux antiques de bronze doré qui décoraient la place Saint-Marc à Venise. Inscription. Chevaux transportés de Corinthe à Rome, ce qui est assez vrai, et de Rome à Constantinople, de Constantinople à Venise et de Venise en France. Ils sont enfin sur une terre libre. Oh. Et ainsi de suite, un premier char. Bon, d'accord. Après des situations dans Paris qui ne mettaient pas en valeur, ce qui désolait les Vénitiens eux-mêmes, ils disaient, mais ils les ont pris, qu'ils les fassent voir quand même. Les chevaux en vinrent à orner l'Arc de Triomphe, quand il fut construit, du carrousel. Là, ce sont des copies, photos actuelles, bien entendu. Venise n'était pas la seule ville visée en Europe. D'autres villes, en Italie et en Europe, furent aussi dépossédées. Une fois arrivées les œuvres d'art, elles faisaient l'objet d'une exposition Salle de la Victoire au Grand Palais, comme celle-ci. Celle-ci, ça va être des objets conquis en Allemagne. Puis on venait voir, on était assez fiers de voir ça, évidemment. Bien entendu, ces spoliations fournirent des arguments de propagande à notre adversaire, l'Angleterre, qui ne s'en priva pas. Alors, vous voyez, évidemment, Napoléon qui donne l'ordre d'enlever tel statut, tel autre, et puis une espèce de grognard sadique qui s'empare d'une œuvre et qui va le mettre, on ne sait s'il va l'acheter ou bien la ranger dans la caisse. Pour le royaume d'Italie, par contre, Napoléon avait des idées bien précises. Car en même temps, la réquisition des biens ecclésiastiques, la suppression de nombreuses églises, devait permettre le développement de trois grandes pinacothèques à Venise, quand même, Bologne et Milan. Mais c'est bien sûr le musée Brera de Milan qui fut le plus gâté. Voici une image de Brera à l'intérieur de la cour qui nous montre ici la statue de Napoléon. Enfin, c'est la statue de Napoléon de Canova, c'est pas la statue d'origine. Ça a été exécuté, c'est une copie parce que l'original, vous savez où est-ce qu'il a été emporté ? Qui est-ce qu'il a acheté ? Qui est-ce qu'il a acheté ? C'est Wellington. Wellington, il tenait à l'avoir tout près de lui. Hein. Et maintenant, ça est encore en Angleterre, évidemment. La bienveillance accordée par la France au musée de Milan se manifesta d'ailleurs dans la cession à ce musée de quatre tableaux flamands. Il fallait que le musée de Brera ait quelque chose de l'école flamande, dont cette dernière scène de Rubens. En réalité, ça venait du Louvre, mais ça avait été prélevé d'abord sur la Belgique. C'est resté, hein, c'est à Brera encore. Les Belges n'ont pas demandé, mais en 1815, la Belgique n'existait pas non plus. Venise ne jouissait pas du même respect que Milan. Le nombre des paroisses... C'est reparti. Ah, c'est chaque fois que je touche quelque chose, il faut faire attention. Ah là là. Ben oui, ça part ici. Il faudrait enlever la couverture. On a réduit le nombre de paroisses, il y en avait beaucoup, hein, à Venise, il y avait 61 paroisses. On les a réduites à 34, mais il fallait trouver une destination pour les œuvres d'art que contenaient toutes ces paroisses, toutes ces églises. Et il fallait aussi éviter la mainmise de Milan, alors c'était un sacré problème, et Giordi s'attarde beaucoup sur ce sujet. Et puis aussi... On a créé à ce moment-là, pour la Pinacothèque de Venise, l'Accademia, c'est là qu'elle a été créée. Par vice-décret royal, par décret vice-royal de 1807. Mais quel serait l'édifice où situer les salles d'exposition? Il fallait le mettre quelque part, à Venise, et on est allé trois. Hein. Alors on a choisi la Scuola Grande della Carità, avec l'église Santa Maria della Carità, qui fut démoli à son tour. Voilà. C'était... On était dans les démolitions. Hein. Santa Maria della Carità par Canaletto. Au cours de ces opérations qui furent réalisées sous pression, des œuvres mineures vinrent à disparaître malheureusement ou furent endommagées, comme le déplore Zorzi. Qui applaudit tout de même à la création de l'Académie. Parmi les tableaux actuels de l'Académie, cette procession qui nous donne une image de la place Saint-Marc au temps de Bellini, mais le tableau du Tintoret, c'est une composition, hein, qui représente la découverte des restes de Saint-Marc à Alexandrie. Les Vénitiens auraient bien aimé le conserver, ça a été attribué à Milan. Durant ce temps, la misère régnait à Venise, misère du peuple, mais même des patriciens pauvres. Dans ses lettres à Eugène, oui, Napoléon exigeait des impôts toujours plus élevés. À cause du blocus continental, l'activité artisanale et industrielle était au plus bas. Pour survivre, on pratique la contrebande, farouchement réprimée. Voici un tableau où l'on brûle les marchandises anglaises qui avaient été saisies. Mais c'est la conscription qui crée le plus de tension. Voici une feuille de mobilisation d'un conscrit de Livourne. Je n'en ai pas trouvé de Venise, malheureusement, mais il y en avait. Identique à celle que recevaient les conscrits vénitiens, bien sûr. Et alors, bon, ce monsieur, il devait se présenter à Livourne, qui était le chef-lieu du département de la Méditerranée, muni de son sac plein des objets personnels. Il se présentera au capitaine de recrutement dans le but de recevoir l'ordre de partance pour se transférer à... Là, ça n'a pas été rempli, il ne savait pas. Et fait par le préfet du département de la Méditerranée à Livourne, 23 août, je pense, 1813. Le préfet, une préfète. Malgré une mise en condition traditionnelle, on voit ici la harangue des conscrits. L'enrôlement se déroulait sans enthousiasme. Là, j'ai dû aller un peu loin. Voilà, il a pas l'air très... ils n'ont pas l'air très chauds, hein, faut les convaincre. Hein. Il y eut naturellement beaucoup de réfractaires. Oui, c'était pas très juste. Hein. On pouvait acheter le droit d'éviter, d'envoyer quelqu'un à sa place, quoi. Les Vénitiens étaient alors affectés à l'armée du Royaume d'Italie, conduite, c'est ce qu'on a commencé à voir tout à l'heure, par Beauharnais, dont une partie, 27 397 exactement, selon Zorzi, dut se joindre à la grande armée envoyée en Russie. Et toujours selon Zorzi, il n'en revint qu'un millier. Voici un débâcle, la grande aussi, et c'est sur ce décor que Geneviève va vous lire un poème de Léopardi. Est-ce que tu vois ?
Dove sono i tuoi figli? Odo suon d'armi e di cari, di voci e di timbali? In estrade contrade pugnano i tuoi figlioli. Attenti, Italia, attenti. Io voglio coparmi un fluttuare di fanti e di cavalli e fumo e polvere e luccicar di spada come tra nebbia lampi. Ne ti conforti e tremombondi lumi piegar non soffri al dubitoso evento e che pugna in quei tempi l'Italia gioventù. E la traduzione? Où sont tes enfants? J'entends le son des armes et des chars et des cris et des tabales. On poignarde tes enfants dans des terres étrangères. Attends, Italie, attends. Moi, je veille, et parmi les flots de fantassins et de cavaliers, et la fumée et la poussière, et l'éclat du glaive comme l'éclair dans les nuages. Crains-tu encore? Et ta lumière hésitante demeure éteinte dans ces champs où l'on poignarde la jeunesse italienne?
Léopardi, c'est à peu près de cette époque, hein, un peu de temps après. Dans le territoire de l'ancienne République de Venise, à part une révolte qui eut lieu à Scio, dans la région de Vérone, et qui arborait le fameux lion de Saint-Marc, il n'avait pas oublié. Hein. Révolte qui fut vite réprimée. Il n'y a rien eu de comparable au sort de Prina, le ministre des Finances à Milan, qui fut massacré par les Milanais. Et puis survient le traité de Vienne. Venise et son territoire retournent à l'Empire autrichien. Donc on revient presque à la carte du début, c'est pas celle-là, hein, mais presque, puisqu'on voit que Venise est à nouveau en vert, hein, et c'est le vieux autrichien. Bon. Les chevaux pouvaient revenir en présence de l'empereur d'Autriche, il n'a pas manqué ça. Et toute l'expoliation sous la risée des Anglais. Les archives revenaient, elles aussi. Oui, parce que on avait pris aussi les archives. Ça, c'est une lettre d'un responsable, à Monseigneur le comte Vaublanc, ministre de l'Intérieur, qui lui dit que, vous pouvez peut-être pas bien lire, mais sûrement pas, qu'il a expédié les archives du Piémont, de Parme, de Plaisance, de Sienne, de Rome. Alors je ne parle pas des autres, un pays, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Et les archives de Gênes n'ont point été réclamées encore. Voilà, et puis il a dit que du coup, le plus grand nombre des employés aux archives a été supprimé parce qu'il n'y avait plus tellement de travail. Ils ont perdu leur travail, ils étaient chargés des archives étrangères. Venise, qui n'était plus république pour un demi-siècle, redevenait autrichienne. On revient au départ. Quelle conclusion tire Zorzi du passage de l'homme du destin, comme il appelle Napoléon ? S'il rend hommage aux réformes, celles communes à tout le royaume d'Italie, et celle propre à Venise, en comprenant dans ces dernières le nouveau système scolaire, le réseau de routes de la Vénétie. Il ajoute quand même du côté positif la naissance involontaire, dit-il, du sentiment national italien. Alors, selon Zorzi, les aspects négatifs l'emportent. Dû certes au double langage qu'il reproche à Napoléon, mais aussi à l'excès de bureaucratisation et de centralisation à la fois de l'Empire et du Royaume. Enfin, à part le fait d'être resté dans des mains étrangères, Zorzi regrette de voir sa ville devenue, de capitale qu'elle était, une banale ville de province. Je vous remercie de votre attention.